plus d'ambition et de solidarité à l'avenir. Après 2 semaines de négociations à Belém au Brésil, les délégations de quelques 200 pays repartent de la conférence sur le climat avec un accord à minima, sans référence directe aux énergies fossiles. Texte salué par l'Inde et la Chine, mais dénoncé par la Colombie. Les petits États insulaires saluent un texte imparfait, mais nécessaire. Le Brésil, où Jair Bolsonaro reconnaît avoir tenté d'ouvrir son bracelet électronique avec un fer à souder. L'ancien président d'extrême droite, condamné pour tentative de coup d'État, dit avoir agi par curiosité. La justice l'accuse d'avoir voulu s'évader. Il a été placé en détention provisoire. Les Bleus du rugby en apothéose ce soir au Stade de France. Les vainqueurs du tournoi Destination terminent l'année sur une victoire en battant l'Australie 48 à 33. Et puis en football, le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1 avec son succès 3-0 à domicile contre le Havre à quelques jours du choc contre Tottenham en Ligue des Champions. Très bonne nuit sur France Info.
C'est la nuit sur France Info.
Les experts.
Et on parle à présent de notre vie quotidienne, on parle de notre argent, de notre travail, de santé, bien sûr. Fanny Guinochet, Sarah Lemoine, Julien Méniel, bienvenue, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Sarah, on parle de nos salaires ce matin.
Transparence salariale, les salariés l'attendent, les entreprises sont loin d'être prêtes.
Vous nous parlez, Julien, vous, d'un blocage.
Oui, je vais vous parler d'une maladie un petit peu particulière que pas mal de monde connaît et qu'on appelle poétiquement le syndrome de la vessie timide.
Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, même si j'ai une petite idée dans 5 minutes. Avant cela, Fanny, tic-tac, sans vouloir presser ceux qui n'ont pas encore commencé à songer au cadeau de Noël, parce que c'est vrai que ça peut sembler loin, mais c'est dans un peu plus d'un mois quand même. Dans les grandes surfaces, vous l'avez sans doute remarqué, les chocolats sont déjà de sortie, mais aussi, bien sûr, les calendriers. De l'avant, le choix là est pléthorique.
Il y en a tellement que l'on s'y perd, puisque maintenant toutes les marques en proposent. Il y a le traditionnel calendrier de l'avant avec des chocolats, mais on en trouve désormais avec des cosmétiques, des parfums, des boissons, des bières, des jouets, Lego, Playmobil. La plupart des marques de thé aussi en proposent. On voit même des calendriers saucissons, c'est vous dire. Alors c'est devenu une vraie folie marketing qui trouve son public, parce que si on en croit une étude de l'Institut YouGov, plus d'un Français sur deux envisage d'acheter un calendrier de l'Avent. Et les jeunes se les arrachent. Plus de 70% des 25-35 ans prévoient d'en acheter un. Idem chez les parents d'enfants de moins de 18 ans. Résultat, certains calendriers sont déjà en rupture de stock.
Bon, est-ce que le calendrier de l'Avent, c'est un bon plan?
Eh bien, globalement, non. Parce que vous payez la magie de Noël. Le marketing, le joli packaging. Et chaque marque rivalise d'inventivité avec des petits coffrets, des formes en Rubik's Cube, des formes en étoiles, des petites cases prédécoupées, et tout ça évidemment à un prix. Et souvent, quand vous rapportez le prix du chocolat au kilo qu'il y a dans votre calendrier, le prix du thé au poids ou même les cosmétiques que vous trouvez dans chaque petite fenêtre, eh bien ça revient bien plus cher que si vous achetiez ces mêmes produits en dehors du calendrier. Donc faites le calcul derrière l'offre alléchante qui pourtant souvent vous assure un montant estimé, c'est souvent trompeur. Par exemple pour les cosmétiques, n'oubliez pas que ce sont des petits formats que vous payez, c'est-à-dire des échantillons et non les formats habituels. Alors ça a quand même un avantage, c'est que vous pouvez découvrir du 1er au 24 décembre des produits nouveaux.
Oui, même si c'est parfois un peu cher payé comme vous nous le dites, et attention aussi aux arnaques.
Oui, parce que ces calendriers de l'Avent sont tellement demandés que des escrocs se sont mis sur le créneau en faisant miroiter sur les réseaux sociaux des offres promotionnelles type un calendrier gratuit. Alors vous y croyez, vous rentrez vos coordonnées bancaires pour un ou deux frais de port seulement, et c'est là que vous vous faites pirater votre compte. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé cette année à des clients de Sephora. La marque a dû sonner l'alerte. Non, il n'y a pas de calendrier gratuit. La magie de Noël ne va pas jusque-là, hélas.
Ouf. Voilà, Julien, arrêtez avec ces calendriers que vous essayez de nous vendre depuis tout à l'heure. Merci à vous, Fanny. On continue à parler argent, décidément, avec vous, Sarah. Et ce matin, vous allez bientôt pouvoir connaître le salaire de vos collègues. Et oui, on l'a déjà évoqué sur France Info, obligation européenne. La France a jusqu'au mois de juin prochain pour l'inscrire dans la loi. Alors pour le coup, les entreprises ne sont pas prêtes.
Oui, ça se résume en trois chiffres. Seulement la moitié des entreprises ont entendu parler de la directive européenne sur la transparence des salaires. Un tiers estime en connaître le contenu. Un quart affirme avoir commencé à se préparer, selon l'Association pour l'emploi des cadres, qui a interrogé 800 organisations pour l'occasion. Alors certes, beaucoup d'entreprises attendent de connaître les modalités concrètes de transposition qui sont toujours en cours de discussion, mais les grands principes sont là, souligne la PEC, et plus le temps passe, plus le travail pour se mettre en conformité sera important. Premier exemple, le processus de recrutement. Dans les offres d'emploi, les entreprises seront obligées de communiquer le salaire d'embauche ou une fourchette de salaire. Mmh. Or, d'après le sondage, elles ne sont que 46% à le faire aujourd'hui. Par ailleurs, elles auront l'interdiction de demander aux candidats leur salaire précédent, alors qu'elles sont 6 sur 10 à poser systématiquement cette question.
Bon, donc ça, c'est pour la transparence en tant que telle. La tâche la plus difficile, ça va être de justifier les écarts de salaire.
Mais oui, parce que les salariés pourront demander les niveaux de rémunération de leurs collègues qui occupent un travail de valeur égale dans l'entreprise. Et en fonction du genre, un sujet explosif alors que les femmes gagnent encore 6,8% de moins que les hommes, à poste et profil identique, sans raison particulière. Résultat, on sent le stress monter chez les managers interrogés par l'APEC. Plus de 6 sur 10 affirment qu'ils auront bien du mal à expliquer les différences de salaire dans leur équipe parce qu'ils ne connaissent pas toujours l'historique ni les raisons objectives de ces écarts. Mmh. En plus, il n'est pas rare que de nouveaux embauchés soient mieux rémunérés que des salariés déjà en poste. Et comme les niveaux de salaire seront affichés dans les offres d'emploi, cette information ne sera plus cachée. La peur de voir émerger des conflits inquiète plus de la moitié des chefs d'équipe.
Bon, est-ce que ça veut dire que les écarts de salaire vont devoir être corrigés ?
Alors, on attend les modalités d'application, mais a priori, les entreprises à partir de 100 salariés devront corriger les écarts de rémunération dès lors que ces derniers dépassent 5% et qu'ils ne sont pas justifiés par des critères objectifs. Certaines organisations ont déjà commencé à provisionner de l'argent en prévision des rattrapages, affirme l'APEC. La mise en conformité va donc nécessiter des moyens et beaucoup d'énergie de la part des managers et des services des ressources humaines, souligne l'association, mais cela en vaut la peine quand plus de la moitié des salariés ne comprennent rien à leur rémunération.
Merci à vous, Sarah. Terminons avec vous, Julien. Et donc, ce matin, une maladie un peu particulière et, disons-le, pas vraiment confortable.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez un petit peu, vous êtes sur l'autoroute des vacances, vous avez bu plusieurs cafés pour rester bien éveillé, ça fait une heure ou deux que vous roulez, et soudain, il faut bien vous rendre à l'évidence, il va falloir vous arrêter de toute urgence pour soulager votre vessie.
Bon, jusque-là, tout est normal, non ?
Oui, jusque-là, mais imaginez toujours, vous garez votre voiture, vous précipitez dans le lieu d'aisance, vous prenez place parmi les autres usagers, et là, rien. Vous êtes complètement bloqué. Le fait de voir, d'entendre ou de vous savoir à proximité d'autres personnes vous empêche purement et simplement d'uriner. Eh bien, vous faites sans doute de la parurésie.
Bon, je vous remercie de parler en mon nom. On va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette parurésie, Julien ?
On l'appelle aussi l'urinophobie, ou plus poétiquement, donc le syndrome de la vessie timide. Et selon la définition du site de l'International Paruresis Association, l'IPA, quelle ironie, la parurésie, c'est le fait de ne pas pouvoir uriner quand on peut être vu ou entendu par les autres, ou quand on pense juste qu'on peut l'être, voire quand on est pressé par le temps ou stressé par quelque chose. Donc initialement, c'est l'impossibilité d'uriner en présence d'autres personnes, mais aussi par extension à cause du stress.
Bon, et d'où ça vient ? Pourquoi ça touche certaines personnes ? Pourquoi ça n'en touche pas d'autres ?
La parurésie, c'est une forme de phobie sociale, donc c'est un trouble qui n'est pas d'origine physique, puisque tout va bien quand on urine tout seul chez soi.
Oui, c'est pas que c'est bloqué en soi. Hein.
Pas du tout, c'est d'origine psychologique, mais quand même, on pense que le stress va provoquer une contraction des sphincters de la vessie et de l'urètre. Alors tout ça, ça peut venir d'un trauma lié aux toilettes ou du fait d'uriner dans l'enfance ou de l'éducation qu'on a reçue. Et les répercussions peuvent être très compliquées au quotidien, ça peut même évoluer vers des formes très handicapantes.
Bon, est-ce que ça se soigne quand même ?
Bonne nouvelle, oui, ça se soigne, la psychothérapie peut aider, notamment les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et l'association IPA France propose même des ateliers de désensibilisation. L'exposition graduelle, ça fonctionne bien, ça consiste à se réhabituer à uriner en présence d'autres personnes avec des exercices dont la difficulté augmente petit à petit.
Bon, bah voilà, une petite note d'espoir quand même.
Voilà, et une prochaine fois, si vous le voulez, je vous parlerai de la parcoprésie, le syndrome de l'intestin timide.
Oui, bah écoutez, je crois qu'on a compris pour l'instant. Vous reviendrez effectivement pour nous parler de ça. Julien Méniel, merci à vous, merci Sarah Lemoine et merci Fanny Guinochet. Le temps dans quelques secondes.
L'info de l'histoire.
Bonsoir Fabrice Dalméda.
Bonsoir Catherine.
Revenons sur cette marche blanche organisée aujourd'hui à Marseille et dans plusieurs villes de France à la mémoire de Mehdi Kessassi. On voit bien, Fabrice, que toute la France est émue et mobilisée par cette affaire, comme s'il y avait un changement, un avant et un après dans l'histoire des assassinats liés au narcotrafic.
Oui, effectivement, et c'est vrai que quand on pense au trafic de drogue, en particulier à Marseille, ça remonte loin, ça remonte déjà dans l'entre-deux-guerres où on trafiquait à l'époque de l'opium et puis bientôt de la cocaïne. Il y avait des trafiquants qui déjà étaient eux-mêmes en conflit et on avait les premiers morts de ce qui peut sembler être des guerres de la drogue qui se sont évidemment poursuivies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Chaque année avait son lot de quelques dizaines de morts, entre 10 et 20 en général. Et puis il y a eu des moments où c'est monté beaucoup plus haut, plus près de nous. 1985 par exemple, 48 morts. Et puis encore plus près de nous, en 2019, 49 morts. Donc vous voyez qu'il y a des moments où ça devenait très 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 difficile de vivre vieux quand on était un bandit, quand on était dans la pègre. Mais ces crimes sont particulièrement marquants quand ce sont des victimes innocentes qui sont touchées, des victimes collatérales, comme disent les militaires, et il y en a eu particulièrement au moment de la fameuse French Connection.
Ah bah oui, l'époque où la pègre française faisait transiter l'héroïne destinée à la mafia américaine.
Exactement, et dans ce contexte-là, les gangsters de l'époque, c'était des Zampa, des Jackie Lemat, et en 1978, il y a un soir d'octobre, le 3 octobre, à 20h10, dans un petit bar, le bar du téléphone, et bien trois tueurs entrent et ils vont massacrer toute la clientèle et le patron du bar. Sa femme s'en sort parce qu'elle était montée à l'étage peu de temps auparavant. Et en fait, on se rend compte que parmi les clients du bar, sans doute certains n'étaient pas impliqués dans des affaires de crime ou des affaires de drogue. Cette affaire-là est confiée à un magistrat, le juge Pierre Michel. C'est lui qui doit démêler le gangstérisme dans la région de Marseille et en particulier le trafic de drogue. Mais lui-même, à son tour, est assassiné le 21 octobre. Écoutez comment Christine Ockrent, à l'époque, et le journal de France 2 annonçaient l'événement.
Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'assassinat en pleine rue à Marseille du juge Pierre Michel, les milieux de la magistrature, de la police et aussi les milieux politiques donnent libre cours à leur émotion et à leur indignation. Sur place, à Marseille, Corinne Pertuis.
Autour du palais, on rend unanimement hommage au juge Michel. Hier midi, comme tous les jours, il a pris le même chemin qui, de son bureau tout près du palais de justice, devait l'amener chez lui dans le quartier Sainte-Anne. Il ne changeait jamais d'itinéraire, une habitude dangereuse pour un homme menacé.
Un homme menacé, finalement abattu, c'est un meurtre prémédité. On l'a visé comme on avait visé Mehdi Kessassi pour stopper un ennemi. Dans les deux cas, en fait, on voit qu'il y a une espèce de saut dans l'ordre de la violence. C'était le deuxième juge abattu en France depuis 1945, après le juge Renaud à Lyon, le juge Michel. Et évidemment, Mehdi est une figure tout à fait singulière, puisque tué pour envoyer un message. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu d'autres victimes innocentes il n'y a pas si longtemps que ça. En 2023, deux femmes, dont Sokaina, ont été victimes de balles perdues des trafiquants de drogue. Donc, il y a un long combat à mener qui est en cours, à Marseille notamment.
Mais d'autres pays ont traversé des époques semblables, où les trafiquants voulaient briser toute forme d'opposition.
Ben oui, évidemment. Alors, on pense, bien sûr, aux pays d'Amérique latine, le Mexique, où, par exemple, une journaliste, Annabelle Hernandez, a vu son père assassiné par les narcotrafiquants pour lui mettre la pression et qu'elle arrête ses enquêtes. En Colombie aussi, hein, le fameux Pablo Escobar, il avait fait tuer un candidat à la présidence, à l'élection présidentielle de 1989. Et plus près de nous, bien sûr, on pense à l'Italie avec ses deux grandes figures qui ont été les juges Falcone et Borsellino. Bref, des crimes qui à chaque fois suscitent des réactions, qui nécessitent à chaque fois un nouvel engagement de la part de notre population. S'il y a un combat à mener aujourd'hui, s'il y a une guerre qui est en cours, c'est bien celle contre les narcotrafiquants.
Hommage aux victimes des trafiquants de drogue ce soir dans l'Info de l'Histoire. Fabrice Dalméda, tous les samedis sur France Info et sur notre plateforme franceinfo.fr.
L'œil de Julie.
Parlons maintenant de cette tornade dans le monde du jeu vidéo avec vous, Julie Vialon. Bonjour Julie.
Bonjour.
La bande-annonce du jeu vidéo GTA 6 a tout emporté sur son passage. Elle a été visionnée près de 270 millions de fois sur YouTube. C'est plus qu'un film des Avengers, plus qu'Avatar 2 ou Star Wars 7.
On dirait une bande-annonce de film.
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
L'action se déroule dans un état fictif appelé Léonida, très inspiré de la Floride. Plage, palmiers, soleil, un décor de rêve dans lequel les joueurs incarnent un duo criminel à la Bonnie and Clyde. On explore, on vole, on conduit, on braque et on construit son ascension criminelle. Quand le studio de jeux vidéo Rockstar publie la bande-annonce il y a près de 2 ans, Internet s'emballe, record battu, réaction en chaîne. On voit même des internautes faire des analyses très pointues de la vidéo.
On va commencer bien sûr par le début du trailer avec Jason, hein, particulièrement costaud. C'est pour une bonne raison, d'ailleurs on apprend le nom complet de Jason, il s'agit donc de Jason Duval, un nom qui sonne presque un peu français. Est-ce qu'il y aura peut-être des origines de la Louisiane qui n'est pas très loin de Miami? Peut-être un Jason avec des arrière-arrière-grands-parents français, on verra.
Effectivement, certains tirent le fil très loin. Pourquoi GTA 6 obsède-t-il autant les joueurs?
Parce que ça fait juste 12 ans qu'ils l'attendent. Le dernier volet GTA 5 est sorti en 2013, plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Dites-vous que certains y jouaient quand ils étaient au lycée et aujourd'hui, ils sont parents et attendent toujours le 6e volet. Surtout que sa sortie a été reportée 2 fois, d'abord de fin 2025 à mai 2026, ce qui avait déjà hérissé les poils des joueurs impatients, et puis récemment de mai 2026 à novembre 2026.
Oh shit! Here we go again.
Donc autant vous dire, pour toute une communauté, c'est un peu comme si Noël avait été repoussé.
Ouais, c'est vrai qu'avec autant d'attentes, l'éditeur n'a pas le droit de se rater.
De l'attente, mais aussi d'énormes enjeux financiers. Selon les médias spécialisés, le coût de production de GTA 6 est estimé à plus $1 milliard. Développement, marketing et publicité confondus. Même les grosses productions hollywoodiennes ne coûtent pas aussi cher. Selon GameSpot, GTA 6 pourrait générer environ $3,2 milliards rien que la première année.
Et ça, c'est la musique de GTA San Andreas.
C'est ça, sorti en 2004.
Ouais, plus de 20 ans. Merci Julie. On vous retrouve en podcast sur l'appli Radio France, L'œil de Julie, tous les week-ends sur France Info. Dans quelques secondes, la météo et votre journal.
Minuit 6h, France Info, l'info juste.
L'Empire des séries, Laurent Vallière.
Des zombies pas comme les autres, comme vous et moi. Pour sa première série après Breaking Bad et Better Call Saul, le créateur américain Vince Gilligan revient à la science-fiction. Lui qui avait débuté en écrivant des épisodes de X-Files et fait de la Terre entière, ou presque, des zombies.
Bonjour Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire?
Une étrange onde martienne atteint la quasi-totalité de la population et nous rend gentils et soumis. Tous, sauf 12 personnes, dont l'héroïne Carole.
Bonjour Carole.
Tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur.
Et ce n'est pas pour le meilleur des mondes. L'idée est venue naturellement à Vince Gilligan.
Ça fait 23 ans que je n'avais pas écrit pour des personnages héroïques. Mulder et Scully dans X-Files étaient des héros. Ils en bavaient vraiment pour essayer de sauver le monde. Après, au début des années 2000, je me suis un peu lassé. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent, écrire pour des anti-héros. Ça a été Walter White, Saul Goodman et tous ces mauvais gars qui n'ont aucune intention de rendre le monde meilleur, mais seulement de gagner de l'argent pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, j'en suis un peu fatigué. Et puis, regardez le monde autour de nous. Je me suis dit, est-ce que le monde a le plus besoin de personnages bons ou mauvais? Et la réponse est simple, de personnes qui font le bien.
L'héroïne est donc Carole, autrice de romans à succès en plein doute, une romancière avec du tempérament, Vince Gilligan.
Pour moi, Carole ne cherche pas à devenir une héroïne. C'est une héroïne imparfaite. Elle a énormément de défauts, mais elle veut rendre le monde meilleur. Elle veut réparer le monde. Et pour moi, c'est ça qui fait un héros.
J'ai juste une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir? Comment j'annule tout ça?
Au cours des épisodes, la série surprend aussi par le temps qu'elle prend. On croirait presque de la slow TV. Et c'est exprès, Vince Gilligan.
Oui, j'aime les séries qui avancent un peu plus lentement. Nous vivons maintenant dans un monde très rapide, il y a TikTok et YouTube. Et on vous dit, attention pour les jeunes maintenant, il faut tout faire tenir en 10 secondes. Plus personne n'a de capacité d'attention. Or pour moi, c'est faux. Et plus Rebus s'adresse à un public qui veut ralentir un peu.
Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue.
Le découvrir, pourquoi?
Afin que vous nous rejoigniez.
Pluribus, des épisodes vraiment surprenants, la plus belle idée de série de l'année, à découvrir sur Apple TV.
Kibritler burada, alt katta banyoda. Hep olay var da olan hiçbir şey yok. Kazan hep kaynıyor, kapta yemek yok. Bak Çin'de açlık var, önündekini bitir.
L'invité culture, Frédéric Carbone.
L'invité culture arrive avec les bras chargés de cadeaux pour tous ceux qui ne se lassent jamais de rire, avec Guéluron, Super Dupont, le commissaire Bougrel, le professeur Burp et tous les autres personnages de Gottlieb. Bonjour Ariane Gottlieb.
Bonjour Frédéric.
Matin, quel BD pour plagier votre père. Voilà donc la vie de Gottlieb en bande dessinée de Julien Solé et Arnaud Le Gueffleck et le début d'une intégrale chez Dargo l'année 67, déjà paru, 2 volumes par an ensuite. Tout ça, vous en êtes à l'origine, d'une certaine manière, vous en fournissez la matière avec le fond Gottlieb. Je parlais de tous ceux qui ont dévoré Gottlieb, mais peut-être cette intégrale-là, elle est aussi pour le découvrir, les plus jeunes, des ados, des jeunes adultes d'aujourd'hui.
Ah oui, c'est ma mission. Pour une certaine génération, ça fait partie de la culture générale, et c'est bien que ce soit comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus jeunes, entre 15 pour Guéluron, et puis 18, 20, 25, sont pas forcément tournés vers le livre à tenir dans les mains. C'est pas qu'il faut les forcer, mais c'est bien qu'ils soient au courant que ça existe et qu'ils peuvent encore en rire aujourd'hui.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas daté, Gottlieb.
C'est pas daté, c'est indémodable et c'est primordial pour la culture générale, selon moi.
Et puis donc, il y a cette vie en bande dessinée. Il avait lui-même écrit une autobiographie. Fils d'une famille de juifs hongrois, réfugiés en France, arrive la guerre, la persécution antisémite. Et le petit Marcel, à 8 ans, qui assiste à l'arrestation de son père, il racontait ça sur France Culture.
Il était peintre en bâtiment et il est parti travailler. Il est passé devant la loge de la concierge. À ce moment-là, il a croisé des flics en civil qui lui ont demandé où habite M. Gottlieb. Ce con-là, au lieu de dire « il est chez lui à 3e étage, porte gauche, escalier F », il vient juste de passer... Vous l'avez raté. Ils ont cavalé après lui, ils l'ont récupéré. Et après, on a vu notre papa remonter. Il nous a dit, c'est pas grave, n'ayez pas peur. Je reviens dans très peu de temps. Et puis, on l'a plus revu.
La déportation de son père, votre grand-père, Erwin Gottlieb, la délicatesse avec laquelle je souligne, c'est dessiné dans cette bande dessinée. C'est assez admirable. Et lui, ensuite enfant, caché... Pendant 2 ans, c'est un cliché de dire faire rire, c'est une thérapie. Mais à quel point c'est vrai sans doute pour lui ?
Ah, c'est vrai pour lui, comme pour beaucoup d'artistes, comme le film de Benigni. Hein,
c'est le même humour.
Et cette autobio, elle est comme lui. C'est ça que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'elle est très pudique. L'humour y est bien présent, mais il est quand même... parfois noir et puis parfois un peu glauque, parce que c'est sa vie qui a été comme ça et qu'il s'est servi de son histoire personnelle justement pour en faire quelque chose d'humoristique.
C'est en permanence en filigrane dans ses BD, mais en même temps, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est la déconne en fait, pour de vrai.
Ah oui, mais toute forme de déconne, qu'elle soit graveleuse ou qu'elle soit poétique, il aimait autant Raymond Queneau qu'il aimait les Monty Python.
Puis il y a le papa de substitution. René Goscinny.
Et puis il y a René Goscinny.
C'est vraiment le père du feu.
Ah, mais indéniablement. C'était un amour réciproque, filial et paternel. Oui, ça c'est sûr.
À Pilote, Et après, est-ce qu'il tue le père d'une certaine manière ?
C'est exactement ça.
C'est ça, en fondant l'écho d'abord, et l'écho des savanes et puis le glacial ?
C'est exactement ça, ce qui a eu beaucoup de mal à finalement comprendre au départ René Goscinny, mais qui l'a absous. Les derniers relationnels qu'ils ont eu ensemble, ils s'étaient finalement avoué leur amour mutuel et qui était bien existant.
Mais il n'osait pas lui demander ce qu'il pensait de Flux Glacial et des BD de Flux Glacial.
Je pense que c'est pas qu'il osait pas, je pense qu'il connaissait déjà la réponse.
S'il aimait pas, il aurait pas aimé.
Je sais pas s'il aimait pas, je pense qu'il était aussi un homme très pudique, René Goscinny, et que... Peut-être qu'il n'aurait pas osé s'avouer qu'il aimait.
Souvent, allez, employant un mot, mais je trouve qu'il n'est pas galvaudé pour lui, les artistes géniaux sont assez solos. Ce qui me frappe avec lui, c'est que s'il n'y avait pas la bande de Flux Glacial notamment, il n'y aurait pas eu Gottlieb. C'est assez égalitaire tout ça.
C'est assez égalitaire, et puis déjà, pour fonder son propre journal, il a quand même tout de suite, immédiatement, fait appel à son ami d'enfance et d'école, qui était Jacques Diamant, sans qui Fluide, et il l'a toujours dit, n'aurait même pas existé.
Je voudrais qu'on dise un mot de la coccinelle, parce que pour tant de gens qui lisent Gottlieb, c'est la petite bête qui est dans plein de pages. J'aime à me dire, en vous écoutant, que c'est peut-être vous la coccinelle, la fille unique qui veille sur les planches de papa.
J'en sais rien, je pense que c'était plus un petit personnage, il l'a expliqué lui-même, pour combler les trous, puisqu'il faisait pas de décor, ça le gonflait. Il avait fait pareil avec la petite souris dans Guéluron.
Lui, son personnage, c'est Guéluron. Dépressif, fleur bleue un peu, absurde.
Il y a beaucoup de ça. Il avait déjà trouvé un premier représentant de sa personne dans Droupy. Et puis, c'est vrai que ce personnage qui dormait tout le temps, il aurait aimé que ce soit lui, puisqu'il était parfaitement insomniaque. C'est une représentation du meilleur de lui.
Vous disiez tout à l'heure que votre mission, Ariane Gottlieb, c'était de transmettre Gottlieb aux jeunes générations. Il se trouve qu'on a reçu la semaine dernière une dessinatrice d'aujourd'hui, okay. Coco. Écoutez-la.
Pour moi, c'est un dessinateur qui a compté au même titre que Franquin, par exemple, ou Rézère. Je me souviens aussi de ce dessin culte de Blanche-Neige avec les nains. C'est vrai que ça m'avait amusé de repenser à ce dessin quand moi-même j'avais fait une Blanche-Neige qui m'avait valu des cris d'orfraie à Libé.
Bon, on va rappeler que c'est pas que le ménage avec les nains, Blanche-Neige, ni chez Coco, ni chez Gottlieb, mais Coco qui dit ce dessin-là, je le lui dois, oser le faire, je le lui dois d'une certaine manière.
Oui, parce que je pense que lui, il a lancé une forme de grosse déconnade qui aurait tendance à être un petit peu en déclin à l'heure actuelle de par la société dans laquelle on vit. Et c'est pourtant important de tout oser et de rire de tout, enfin de tout ce qu'on peut. Alors, pas avec n'importe qui, paraît-il, selon disait un certain Pierre Desproges. Ouais, il faudrait pouvoir encore tout oser, sans censure.
Une curiosité, Ariane Gottlieb, dans La vie en bande dessinée, Goscinny s'adresse à votre père en le qualifiant de brave et généreux Gottlieb.
Généreux, sans aucun problème, ça c'est sûr. Brave, en tout cas dans le bon sens du terme, c'était un homme très gentil, ultra droit. C'est quelqu'un qui se lançait dans aucun conflit. Quand il a dû le faire, ça l'a traumatisé. Et généreux, oui, bien sûr, généreux.
Eh bien, écoutez, vous êtes généreuse, vous nous livrez tout Gottlieb.
Ah, c'est plus intéressé que généreux.
Vous êtes honnête en plus, et vous êtes sincère. Gottlieb, donc, œuvre.